Eugène Marsan, Éloge de la paresse. Coquetelle au bord du Loir. Imaginez un château. Un château vous plaira, et non pas une vaste fabrique rétablie à grands frais comme un musée, mais une demeure. La grosse tour de l'Ouest est du XIIIe. La légende veut, comme toujours, que ses fondations remontent jusqu'aux Romains. La tour du Levant est du XVe, avec une porte si basse qu'il faut se baisser, curieux vestige d'un âge antérieur. Entre elles, tout le corps de logis est d'une renaissance retouchée. La petite aile droite a un double visage, Empire et Louis XVI. Il est certain qu'une telle bigarrure serait laide dans un objet récent. Il n'est pas moins sûr que le château de B est délicieux. Après tout, vous comprenez pourquoi. Chacun a subordonné ce qu'il apportait selon le goût nouveau à ce qu'il laissait par besoin ou par respect. Une sorte d'unité est venue de l'usage et de la succession. Le ciel angevin, pour finir, a doucement mûri ce fruit de greffe. Il vous est arrivé de découvrir au fond d'une belle allée donnant sur la route une de ces maisons qui vous troublait soudain comme une femme. Vous souhaitiez d'y vivre. Ce qui attriste certains châteaux est un air d'aridité. Ils n'ont aucune eau vive. Et ce peut être l'isolement. Ils perchent ou gisent au milieu d'un désert. B, à la lisière du bourg, ressemble à une mère poule qui marche en tête de ses poussins, ou bien à quelques capitaines sobrement empanachés qui réunissent sa troupe. Je parle comme Aloysius Bertrand. Et le Loir l'embrasse avec tendresse. Le Loir en a fait une île. Les heures reçoivent dans ce miroir pâle ou ardent l'image de B, à demi enveloppée par les arbres. Nous étions une bonne demi-douzaine qui causions en buvant. La terrasse porte un gros arbre autour duquel l'habitude veut qu'on se range à la fin de l'après-midi. On s'éloigne à mesure que l'ombre s'allonge. Et les derniers rayons nous trouvent établis sur la margelle de la rive, autour d'une petite crique pleine d'algues, d'où nous regardons pencher l'astre du jour. Il était ce soir-là, et tout le ciel avec lui, d'un blanc d'argent que le fleuve, sans une ride, répétait en moins vif. Fabrice, Charlemagne, Ghirlandaio, Colbert, Ajax, Savonarole, Livingstone, nous étions plus de 6. Vous saurez tout à l'heure l'origine de ces noms bizarres. Nous étions plus de 6 et 2 dames avec nous. Madame Reine, la dame du château, qui semble une reine en effet, ou plutôt une bonne sainte de nos églises. Renoir l'a peint dans son éclat, mais il l'a épaissi. La postérité en soit prévenue. Madame Reine est sa belle-fille, la femme de Savonarole. Nous la nommions Minerve, parce qu'elle est la raison même. Cela va sans commentaire. Peu à peu, la bulle que formait l'espace parut s'alléger encore, devenir un fluide plus transparent, éthéré, tout à fait impondérable. Puis, des vapeurs en foule naquirent dans le firmament. Il semblait qu'elles se fussent rassemblées à la hâte. Il avait seulement fallu que le soleil les frappât de biais. En même temps, il les avait transfigurées. Un amas d'archanges, de chars vivants et de trônes et de glaives. « On a beau dire, déclara Fabrice, tout répandu dans l'herbe, la paresse est bonne. Un idiot qui est paresseux, il s'ennuie à ne rien faire. Il me semble pourtant qu'il doit s'ennuyer toujours, au lieu qu'un paresseux homme d'esprit goûte des plaisirs sans fin. Ah, vous ne comprenez pas, dit Madame Livingstone, qui nous était arrivée à l'instant, jolie brune aux yeux bleus et gris. Vous ne comptez pas tout ce que la paresse lui fait perdre. La dame d'Onzeur ne verra pas ce couchant. La malavisée, dit Madame Reine. À force de bailler sur un livre ou sur elle-même, elle finira par ne plus rien savoir du globe qui le porte. Mais nous, dit Ajax, Savons-nous bien ce qui l'enchante? Oh, je me rappelle une pensée de Jean-Jacques. Ce démon attrapait quelquefois un bon reste de nos moralistes et il avait une langue magnifique. L'oisiveté des cercles est triste parce qu'elle est de nécessité. Celle de la solitude est charmante parce qu'elle est libre de volonté. Ah, en d'autres termes, vous encouragez la dame d'Onzeur à nous fuir. Non, le pauvre petit, non, je crois seulement qu'elle se cherche. Ses pensées, ses livres, elle cherche à reconnaître dans cette rage de découverte qui étonne ses 18 ans. De là, ses rêveries, sa distraction. Elle est paresseuse comme la fontaine. Ainsi naquit un beau soir, un beau sujet de conversation. La belle Landor. Charlemagne est ainsi nommé par nous à cause de sa grande barbe. La pipe ne quitte point cette bouche, une longue pipe recourbée, malgré la mode. Il a passé sa vie à se dévouer. Il n'imagine pas un plus grand bonheur. Ghirlandaio est ainsi nommé parce qu'il est capable d'ajouter à toutes les beautés de la terre encore des ornements, encore des guirlandes. Il connaît tous les tableaux, a lu tous les livres, parle 3 langues. Il est puissant comme un dogue, fin comme l'ambre, bon comme le pain, gourmet comme une chatte. Cette expression toute faite, quel régal! Prétendez-vous rivaliser avec leur génie? Oui, Ghirlandaio, un raffinement du XVIe siècle. Avec cela, un grand esprit de simplicité. Le même, à peu près, qui distingue Fabrice, où il est presque sans frein. On le surnommait Fabrice par allusion à la chartreuse de Parme, à cause de cette simplicité, justement, qui lui garde une candeur enfantine au-delà de la trentaine. Il est toujours étonné lorsqu'il découvre une Villenie au monde. Il s'émerveille de l'irrégularité de la pluie, de la méchanceté des hommes. Après quoi, se ravisant tout à coup, il rit de lui-même, de son propre personnage. Colbert est un homme politique, toujours à 2 doigts du ministère. Oh, je ne dis pas un politicien. Il y a longtemps qu'il serait ministre. Républicain, comme on l'est en Lorraine. Il est suspect à ceux de la majorité. Ses rapports sont des chefs-d'œuvre lus par 10 de personnes. Il vit dans une garçonnière où toute la politique, toute l'économie de l'Europe sont en fiche. Et il épuise honnêtement 3 dactylographes dépourvus de toute coquetterie. Un Colbert blond, aux yeux bleus, pareillement silencieux, quoique moins bourru, ayant en clair jusqu'aux gros sourcils de son modèle. Ajax, nous le nommions aussi Sardanapale, selon le cas. Fabrice l'avait d'abord nommé Gladiateur, du nom d'un cheval fameux sous Napoléon III, mais il s'était plaint. Il avait dit qu'il détestait le caractère de ce coursier. Va donc pour Ajax ou Sardanapale. C'était la même idée fastueuse. Notre homme avait bien la tête maigre des purs sang et leurs pattes fines, et leur allure, leur majesté, leur découragement. Les chars de course lui sont un domaine privé. Il rivalise avec les ombres les plus fameuses, Morny, Dorset, et au lieu de travailler de son métier de poète, il soupe, joue et baille. Savonarole est dévoré de scrupules. Il doit son nom à un dépit d'artiste insatiable qu'il a jeté un jour sur l'une de ses œuvres brisée en miettes. On le voit décrire des cercles autour de sa statue. Il l'aime et il la hait, la fuit et lui revient. Les 2 forces étant égales, il tourne en rond à cause d'elle, dans les escaliers, dans les couloirs, dans le parc. Il est chrétien chaleureux qui adore le Moyen-Âge. L'ardeur et la subtilité se battent dans son jeune cœur. Le dernier de la Pléiade, nous le nommions Livingstone, parce qu'il est toujours par Mont et par Vaux. Vous le rencontriez un matin, tranquille, dans son quartier, et vous appreniez le lendemain qu'il était parti la veille au soir avec sa jeune femme pour Nijni Novgorod. Un taxi jusqu'à la gare de l'Est, chacun sa petite valise. Entre-temps, il s'occupe de politique et de poésie. Je n'oublie pas de noter que Fabrice et Guillaume Daillaud sont des écrivains de carrière, et ce dernier peintre et céramiste. Il s'occupait alors de son premier roman, où l'on vit les 13 de Balzac. Stendhal en personne est l'un des faux dauphins. Le délicieux été nous caressait par les fenêtres ouvertes. Fabrice assurait que les acrobates chinois dansant dans la tenture lui fatiguaient l'âme par l'idée de l'effort inutile. Il n'avait rien fait depuis 15 jours qu'il était abbé. Sur cet aveu, Savonarole le considéra avec un redoublement d'amitié. Sa vierge n'avait pas bougé d'un fil. Livingston avait arpenté la commune, puis l'arrondissement. Il allait s'attaquer à la province, mais d'écrit, point. Guirlande Ayot change seulement de travail et il croit se reposer. Son plus grand repos est fait de lectures insondables. Balzac à la file, l'Astrée en 8 jours, les mille et une nuits à la vapeur. Colbert observa qu'il était arrivé et n'en pouvant plus, qu'il se reposait donc, mais qu'il était surpris de trouver pour la première fois tant de plaisir dans l'inertie. Ajax déclara que pour lui, c'était ce qu'il avait toujours fait, le travail étant, selon la loi même de l'écriture, un châtiment qu'il pensait n'avoir point mérité. Lecteur, avise-toi qu'il s'agit, dans tout ce qui précède, bel et bien d'une préparation, à vrai dire un peu trop lente. Si tu as jamais écrit toi-même, tu m'excuseras. Quant à Charlemagne, il souriait avec tant de mystère que nous en fîmes un ultimatum. La porte s'ouvrit sur Madame Reine et sur Minerve. Presque aussitôt, Madame Livingstone en coup de vent. Nous entourions Charlemagne d'un cercle peu amène, dont les dames voulurent savoir la cause. « Mais je constatais une fois de plus, expliqua-t-il, la magie de ce château. Messieurs, que voilà ont bouclé leur mal, la tête bouillante projet. Mais les livres donnent dans les caisses, et les dossiers prennent la poussière, le service n'osant les remuer. C'est que B est enchanté. Avez-vous seulement des remords ?»« Oh, mais non, dit Ajax. Bon, seulement de faim. La dame d'Auxerre n'est plus la même de midi. Je propose de la nommer la belle Landor, en changeant en nom propre une épithète qui est dans Madame de Sévigné et dans Brantôme, la belle Landor. » Elle entra comme la cloche sonnait pour la 3e fois. Elle avait l'insouciance peinte sur sa face un peu ronde, comme celle de certaines héroïnes d'Ingres. Elle ne s'excusa point, parce qu'elle se croyait à l'heure. « Mais vous avez donc corrompu Mariette ?» lui demanda Colbert. « Qu'elle sonne 3 coups à présent. » Il est vrai que cette petite est charmante. Comment tout le monde ne lui céderait-il pas? Qui pourrait lui en vouloir? Cette loyauté que l'on sent chez elle, cette obligeance, cette aptitude à se vaincre pour rendre service. Belle aussi. Elle a ses cheveux courts qui surmontent en boule une nuque divine. Elle a ses yeux morts dorés qui brillent tout d'un coup sous la paupière un peu épaisse. La bouche et la courbe de la joue jusqu'au menton sont parfaites. Un corps des plus justes proportions. Enfin, un air de beauté classique, animé. Hélène, italienne, provençale. Chapitre 3. Les meilleurs paresseux de France. Un ange était entré avec nous dans la salle à manger. Il s'agit d'un ange silencieux, oh non plus de la belle Landor, ci-devant dame d'Onzeur. Savonarole essaya de mettre la conversation sur le temps, mais la jeune fille... À présent, j'en suis tout à fait sûr, vous parliez de moi. Non, nous parlions de ces messieurs. Figurez-vous qu'ils ne travaillent point, sauf Guirlande Ayot, bien entendu, qui travaillerait sur le gris de Saint-Laurent et à Capoue. Et ils n'ont point de remords, à part l'iconoclaste, ce qui les surprend tous, Ajax excepté. Oh, je leur révélais que nul n'a jamais travaillé à B, de mémoire d'homme. À 10 lieues à la ronde, nul ne travaille. L'arbre et la prairie travaillent au lieu de l'homme, comme disait Ronsard. Le paradis terrestre s'est retrouvé, c'est en Anjou. Oh, que c'est bien dit, mais je persiste. Conversation sur la paresse, vous me nommâtes. Eh bien, mon enfant, dit Madame Renan, ce méchant Azax vous a pourvu d'un autre surnom. C'était l'usage à B de faire connaître les sobriquets que nous nous donnions. Il devait rester innocent. La petite Livingstone. Ajax Erdanapal était sûrement jaloux. Parce que, fit Ajax, vous exagérez. Nul ne m'entendra jamais en dire la paresse. Mais vous l'altérez, vous la corrompez. Voilà que vous n'aimez plus à contempler la planète. Vous laissez les soleils se coucher sans vous. Et voilà que vous n'êtes plus gourmande, la première à table. Vous faites manger à l'heure anglaise nos bouches de France. Ce n'est plus du jeu, ce n'est plus la paresse. La douce, la pensive, la chaste, la courtoise, l'aimable. Mais cette résignation hébétée, oh, je vous demande pardon, que l'obsession de sa guigne donnait à tout lait, à ce qu'il prétendait, ou bien ce pessimisme dont parle Goethe, si décourageant, qu'il aspire le suicide à un jardinier de sa connaissance, fatigué d'avoir arrosé toujours les mêmes parterres. À coup sûr, vous avez cessé de mériter même ce nom d'une fleur lambine que Ghirlandaïou vous donna. Ah, c'était donc un nom de fleur, dit la pauvrette avec une naïveté que Fabrice admira. J'avais cru que j'étais comparé aux dames de la messe de midi qui se lèvent à 11 heures. Et leur chocolat leur est servi sur l'oreiller, au lieu que l'on exige de nous, malheureuses, que nous l'avalions debout, comme les hérons, et que l'hiver y ait de la glace sur l'eau de notre toilette. Parce qu'on riait de l'hyperbole, elle se rengorgea comme une colombe, fière et rougissante à la fois, par un mélange à elle. « Monsieur Ghirlandaïou, soyez gentil, racontez-moi la dame d'Onzer. » Oh, beaucoup de citadins imagineraient, s'ils y songeaient, que les fleurs s'ouvrent toutes au même instant, au signal de l'aube, comme si les jardins et les champs étaient pareils à des dortoirs de jeunes filles élevées par la cruelle Madame de Genlis. Oh, il n'en est rien. Les fleurs n'ont pas moins d'humeurs diverses que les femmes. Quelques-unes sont héroïques, comme le salsifis, lequel a aussi des fleurs. Elle s'éveille à 4 heures du matin. La crépide est prête à 5 heures. La scorsolaire à 6 et le doux nénuphar qui flotte sur l'eau douve à 7. La chicorée sauvage et la pisolelle sont des levées bourgeois, 8 heures, 9 heures. Nous en sommes à la dame d'11 heures, seulement dépassée par les plantes grasses qui s'étirent à midi. On m'aura donné le nom d'une plante grasse? Oh, c'était trop cruel! Il devenait charitable de la rassurer. Ajax déclara son invention. Nous en étions au plus joli dessert du monde lorsqu'elle s'imagina de se venger de tous et de chacun. Elle demanda, premièrement, que la réunion du soir dans le salon blanc fût consacrée à l'examen de la paresse. Il fallait savoir au juste ce que c'était. Deuxièmement, qu'Ajax, le plus coupable, eût apporté la parole, à diriger les débats et à recevoir la contradiction. Madame Reine était ravie du secours qui lui venait par là. Chapitre 4. La plus sage de nos passions. La paresse mérite bien mieux l'élogieuse définition que s'est à lui-même accordée le peuple de Dieu, Israël. Elle est véritablement le sel de la terre. Sans la paresse, la terre serait une autre géhenne. Dans cette amère aventure de l'existence, l'homme trouve quelque répit en elle et grâce à elle. Dans cette amère aventure qui ressemble au noir rocher de Sisyphe, telles sont les voies que les astres nous ont ouvertes. Nous succomberions à la peine et sans doute à la fatigue, moins qu'à l'inquiétude. Mais nous délassant du premier de ces maux, le bas de la paresse dissipe mystérieusement nos soucis. Il loge à leur place, dans notre âme, tout à coup détendue, la sérénité, le repos, la paix, une gerbe ineffable. Q. Quelle soit notre perpétuelle libératrice dans ces combats de l'homme et du destin, La Rochefoucauld l'a gravé. Personne n'a mieux vu sa nature profonde. Le repos de la paresse, a-t-il dit, est un baume secret de l'âme qui suspend soudainement les plus ardentes poursuites. Elle est une béatitude qui nous console de toutes nos pertes et qui nous tient lieu de tous les biens. Pesons tous ces termes. Ils reviennent à dire que la paresse est en quelque sorte le bouclier du sage. Elle lui a été donnée afin qu'il parvienne à détacher de la roue agaçante des choses sa personne souveraine. On s'est trompé, dit encore La Rochefoucauld, quand on a cru qu'il n'y avait que des violentes passions comme l'ambition et l'amour qui puissent triompher des autres. La paresse ne laisse pas d'en être souvent la maîtresse. Que la paresse soit donc notre recours, notre pourvoi, notre défense, notre oasis. Comme elle nous aide à fuir les passions violentes, elle nous incline vers toutes les vertus paisibles. L'expression est encore de La Rochefoucauld. Ces vertus paisibles où s'éprouve, où s'apaise la délicatesse d'un cœur, et dont la paresse est à la fois le témoin et le guide, le garant, peut-être le principe. Jamais on ne verra la paresse nourrir, par exemple, une ambition hostile au bien de l'État. Le grand coupable que devint Fouquet fut d'abord ce frénétique dont la devise « Où ne m'élèverai-je pas ?» et le blason à un écureuil grimpant annonçaient à coup sûr le malheur et les crimes. Le paresseux redoutera cette agitation de l'écureuil sautant de branche en branche, comme de vanité en vanité un homme avide. Content de son état, humble lorsqu'il se regarde, fier lorsqu'il se compare, le paresseux ne sera jamais un ennemi des lois, non plus de ses voisins. Il vit en paix avec ses proches. Il n'intrigue pas contre eux par un travail qui d'abord lui semble pénible avant que de lui paraître injuste. Il n'en médit pas même, voulant épargner à son esprit cette contention et ses regrets. Il lui suffit d'un petit effort pour être bon. Il ne lui en faut aucun pour n'être point méchant. Les alarmes de l'hypocrite, toujours armé, toujours bandé, l'épouvantent. Lui, il a de l'abandon, il est ingénu. Est-ce qu'il ne convient pas d'admirer, pour ainsi dire d'adorer, cette efficacité, cette économie de la paresse? Elle est seule à nous frayer si aisément le chemin de la philosophie, si bien qu'un auteur du XVIIIe siècle, qui est peut-être Caylus, ou peut-être Crébillon, ou peut-être Duclos, dans un curieux recueil que seul le premier a signé, n'a pas craint de dire, puisqu'elle se confondait avec philosophie, que la paresse était la philosophie même. Elle est clémente, parce que la rigueur et l'oppression veulent un tracas, parce qu'elles ont des suites qui la fatigue par avance. Elle est modérée. La modération est son climat. Elle est constante, par aide naturelle du changement. Elle appréhende les affres de la rupture, les sapes des raccommodements, les campagnes d'une nouvelle conquête. Et elle est exempte aussi bien de toute envie. La face décharnée, la face travaillée de l'envie, lui ferait horreur, si elle n'évitait spontanément même de la concevoir. Si tel est l'effet multiplicateur de la paresse sur les vertus paisibles, ou si l'on veut passive, on aurait tort de croire qu'elle détruit forcément les vertus actives. Elle ne les annihile pas. Ménagées, tenues en balance, elles composent un magasin, un arsenal, dont le paresseux bien-né garde la clé et l'usage. Le paresseux bien-né. Oh, il est évident que je ne songeais point aux autres, aux âmes perverses et basses, qui brandissent la paresse comme le criminel son alibi, ou qui s'y vautrent comme dans une boue. Dans la paresse, un cœur bien-né se retrempe. Un amant paresseux ne sera ni brutal, ni blasé, ni dégoûté, ni affolé. Déjà fidèle par habitude, il sera tendre, non par politique, mais par élection. par ce goût inné qu'il a de la volupté la plus douce. Un lettré paresseux, un savant paresseux, ils seront calmes, ils évitent la précipitation. Ils ne parcourent pas son laboratoire en insensé, ils ne choquent pas au hasard les cornues. Sans le blé de l'esprit, il ne laboura pas une page, un livre ingrat. Non, sa fraîche imagination, un jour aura jailli comme le bras vivace d'une source. Son invention reposée a pris un jour sa course comme une nymphe pleine d'élan. Archimède n'était-il pas au bain, ses jambes doucement soulevées par la force de l'eau, lorsqu'il découvrit, dans cette occupation d'oisif, l'un des premiers principes de la physique? Est-ce que la gravitation des mondes n'a pas été rencontrée par un autre paresseux qui se promenait dans les champs? Et il rêvait, étendu, lorsqu'une pomme lui révéla dans sa chute cette attraction qui maintient à travers l'éternité le monde des sphères. Il émeut de songer qu'une pomme, un fruit d'arbre, s'est retrouvée là, dans cette seconde invention du monde. Les affaires publiques elles-mêmes souffrent volontiers un peu de paresse. Témoin, cet homme qui a tenu dans ses mains la grandeur de la France, elle a peut-être laissé couler comme de l'eau, parce qu'il n'avait de pensée que pour l'étude à la loupe d'un million de dossiers. Témoin aussi, dans l'autre sens, ce comte de Grignan, qui avait renom de paresseux, et musicien, bon écrivain, bel esprit, quasi poète, profondément pénétré par les impressions du chant et les paroles cadencées, il devait l'être. Son château provençal, où résidait ce gouverneur de province, plein de monde pour le servir et d'amis pour lui complaire, il vivait dans le faste, dans les concerts. Il ruinait chaque année ses finances personnelles. Sa belle-mère pourtant le défendait partout. Sa belle-mère, mais rien de moins que Madame de Sévigné. Elle protestait qu'il n'était point paresseux au service du roi. Et c'était vrai. Et Tacite nous fait voir dans Pétrone ce miraculeux passage de la noble paresse à l'action heureuse. Pétrone, nous dit-il, consacrer les jours au sommeil et la nuit aux soins et aux douceurs de la vie. Où les autres tirent leur réputation de travail, il devait la sienne à la paresse. Il affichait en parole et dans sa conduite un nonchaloir et une désinvolture qui jouaient la simplicité, ce qui leur donnait un charme de surcroît. Toutefois, achève Tacite, proconsul de Bikini, puis consul, il sut montrer sa vigueur et traiter de plein pied les affaires de sa charge. La chronique et l'histoire enregistrent que Pétrone fut équitable et fier jusqu'à la magnanimité, au lieu qu'elles ont flétri la cruauté rampante de son rival, l'industrieux Tigellin. Ajax parlait devant un verre d'eau que la belle Landor lui avait moqueusement sucré. On lui avait permis à peine d'avaler son café. On avait versé son cognac dans ce verre d'eau. Et il aurait commencé, selon les règles, déclara-t-il, par une invocation aux muses si, si merveilleusement vivantes, je n'avais aperçu devant moi l'une d'elles, ou plutôt leur dixième sœur, et qui commande à leur troupe. Vous-même, madame, petit salut à la belle Landor, dent pour dent. Bien que cachée sous le nom et les traits d'une mortelle. Muse entre les muses, qui inspirait non seulement les faibles hommes, mais jusqu'à vos sœurs, la paresse étant, comme les anciens l'avaient bien vu, le lieu et l'occasion, la mère immortelle de la connaissance et de la poésie. Sur cette tirade, Ajax avait bravement pris son sujet de droit fil, comme on vient de le voir. Emphase et archaïsme, nous admirions son ironie. Chapitre 5. Le bonheur par la paresse. Je ne sais pas, dit Fabrice à Ajax, ils sont amis intimes, si vous trichez au jeu, mais vous tronquez les citations. La Rochefoucauld n'a pas vraiment loué la paresse. Il a seulement expliqué. Comme toujours, il a fait un constat. Oui, bien, comme disait le père Faguet. Voulez-vous que je récite la Rochefoucauld de bout en bout? J'en prends un peu, ce qu'il me faut. La Rochefoucauld dit de la paresse que de toutes nos passions, elle est celle qui est la plus inconnue à nous-mêmes. Oh, en effet, la paresse est mystérieuse. Hélas, fugitive à douter qu'elle puisse être autre chose qu'un rêve. Elle nous échappe toujours. Elle est, dit la Rochefoucauld, la rencontre qui a la force d'arrêter les plus grands vaisseaux, une menace plus dangereuse que les écueils et les plus grandes tempêtes. Que la paresse soit couverte d'éloges par des bourreaux de travail comme Ghirlandaio et Colbert, ils se divertissent. Chez toi, Sardanapale, une telle louange est cynique. Elle est d'ailleurs imprudente. Rappelle-toi comme la paresse est vilaine dans le tableau de Mantegna. Une face verte, le corps d'une grassouillette limace. Tu défies le sort. Jupiter ne permet pas que son royaume s'endorme dans une lâche indolence. Virgile dixit. Écrivez, belle Landor, conclut Fabrice. Nous allons rivaliser avec les plus illustres maximes. Pensez. Pour goûter la paresse, il faut aimer et suivre le travail. Les vrais paresseux savent tous que leur ôte des mains une si insidieuse passion, et ils la maudissent. Mais la puissance prétend se parer d'elle, comme d'un masque dans les grelots de carnaval. Sa bouchette encore entr'ouverte d'admiration, la dame d'Onzer voulut avoir aussi le texte de Goethe dont on avait parlé. « Vous le demanderez à André Mauroy, » répondit Ajax. « Il s'agit de la stupeur où l'on peut tomber devant l'agitation humaine. Et plutôt que de vouloir bouger ainsi, tous les jours les mêmes mouvements, on se tue. »« Ah, c'est plus la paresse, » dit Savonarole, « c'est la mélancolie. »« Celle qu'il faut fuir, » dit Livingstone. Fabrice. « Paresse et mélancolie, deux sœurs. » Ajax. Autre pensée vertueuse aggravée, petite fille. Encore Fabrice. Dante méprisait tellement les paresseux qu'il les loge en dehors du ciel et de l'enfer, dans un vestibule. Le ciel les chassait pour n'être pas moins beau. L'enfer n'en voulait pas. Et Virgile dit à Dante, « Non rationam, dilor, regarde et passe. » Encore Ajax. « Mais c'est toi qui triches. » Dante ne parle point des paresseux, mais des tièdes. Tièdeur et paresse peuvent se rencontrer, elles sont diverses. Fabrice, de plus en plus lugubre, exprès par exagération, par feinte mondaine. Mais la paresse traduit un empoisonnement de l'âme ou du corps, sinon des deux. Les confesseurs et les médecins. Et Ajax, éclatant comme dans Homère, « Mais enfin, tu nous ennuies, tu cherches une querelle d'allemand. Tu sais très bien que le prétexte même t'en manquerait, et l'ombre du prétexte, si nous parlions latin. Car le sujet de tes verbes serait pigritia et otium, otia, celui des miens. On verrait tout le monde tout de suite que j'ai raison. Majestueusement raison. Les mots sont des miroirs psychologiques. Celui-ci reflète la véritable figure de la paresse. On y voit dans son authenticité, dans sa pureté, dans sa candeur. Paresse, autant dire loisir. Tu te rappelles, loisir, repos, absence d'occupation. Mais loisir, c'est-à-dire contemplation, invention, étude. Ce n'est pas tout. La paresse est aussi la paix. Per otium, dans la paix. La presse est aussi la poésie. Ovide nomme les poèmes otia, c'est-à-dire les fruits de la paresse. Dis-moi, que serait un poète sans la rêverie? Un poète qui ne connaîtrait pas cet état d'attente, de disponibilité, de solitude, le seul où les ombres consentent à venir, ses propres ombres, témoins de sa vie et d'autres, plus incertaines et toutefois lancinantes, qui dictent d'une voix inconnue. paresse de Baudelaire, paresse de Musset, paresse de Villon, paresse même de Ronsard, s'éveille si studieuse. Et tu as su comment vivait Moréas? Il avait renoncé à tout, à la fortune parce qu'elle exige trop de soins, à l'amour pour la même raison, et pour uniquement se souvenir de la belle étrangère qui ravit à jamais sa jeunesse puis disparut, à l'ambition vulgaire, parce qu'il en avait une autre. Scrupuleusement oisif, il se tenait aux ordres d'Apollon. Il attendit, guetta, opéra le moment des rifiles, le moment des stances. On ne m'objecte pas que l'art, ce passage du songe à l'acte poétique, exige une fabrication, une élaboration. Vois, te répondrai-je, vois cet homme immobile, ce muet. Si tu élèves la voix, tu vas lui faire mal. Si tu veux qu'il t'écoute, l'importuné. Il caresse dans sa tête, que tu crois indolente, les formes et les nombres de la beauté. Et récapitule, je te prie. Foyer des fers du paisible, sans blague. Lampe qui brille sur un livre ami, second ciel du promeneur, consolatrice de la peine, avant-courrière de l'oubli. N'iras-tu que la paresse soit le bonheur? Il ne manque, disait la bruyère à l'oisiveté du sage, qu'un meilleur nom, et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appela travailler. Voilà dénoncé par un meilleur que moi la querelle de mots que tu me faisais. Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire. Personne presque n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de fond pour remplir le vide du temps, sans que ce que le vulgaire appelle des affaires. Comme cela, la pensée de la bruyère est complète. Je t'ai seulement donné la fin avant le commencement. Tu ne peux plus m'accuser. Paresse égale dignité, capacité, scrupule, modestie, étude, désintéressement. Elle est aussi liberté et fantaisie. On ne vole point les mêmes ailes pour sa fortune que l'on fait pour des choses frivoles et de fantaisie. Voilà un beau merle blanc, la bruyère. Il y en a donc. Le prince Kaunis en 1840, qui ne se lavait jamais. Au point, dit Minerve, ne nous dégoûtez pas. Le prince Kaunis n'était pas un paresseux, mais un abruti. Il suffit de définir. Les dames qu'il aimait, il lui plaisait qu'elles en eussent un gros nez et de remplir son nez de tabac. Un paresseux véritable est propre parce qu'il aime son bien-être. Il ressemble au chat qui ne passe point pour un foudre de labeur. De même, il est gourmand et non pas goinfre qui fatigue. N'est point un paresseux qui veut. Lessing. Paresseux en toute chose, sauf en paraissant. Il faut savoir posséder, conserver la paresse, savoir en jouir. C'est Renan qui passait des heures à regarder la mer. Saint-François de Sales qui se plaisait dans les bois. Et c'est, paraît-il, Bourget, bien que je puisse garantir l'anecdote. Il était chez le comte d'Ossonville, sur les bords du lac de Genève. Je l'ai vu, ce beau lac, des fenêtres de Jacques Chennevière, qui avait sa maison sur la rive. Il est ravissant, un bleu du ciel, entre le bleu de l'île de France et le bleu méditerranéen. Le comte d'Ossonville, un matin, avait surpris Bourget encore au lit, vers 10 heures. « Mon bon ami, je travaille, je réfléchis. » Le lendemain, mais une heure plus tard, M. d'Ossonville prenait les devants. « Bon, je vous en prie, cher ami, levez-vous, vous allez vous surmener. » Oh, vive l'esprit! Mais vive un paresseux qui écrit 50 chefs-d'œuvre du roman et les essais de psychologie contemporaine. Rappelle-toi encore Virgile, disant « Amato tia Daphnis », ce qui peut être traduit finalement « Daphnis aime la paix ». La paix, la tranquillité, la flûte et le clair de lune. Je préfère celui qui a traduit dans le beau goût abstrait et psychologique de l'ancienne France, Daphnis aime qu'on soit heureux. Par la paresse, Fabrice, par la paresse. Chapitre 6. Véritable intention de Dieu. Ajax, dit Ghirlandaio, a certainement raison, puisqu'il est du même avis que Dieu. Attention, dit Madame Rennes, tandis que Savonarole sautait de joie. Ayez confiance, intervint Minerve. Et Ghirlandaio. Dieu n'a pas imaginé, comme l'on dit quelquefois, et tous nous sommes tombés dans cette erreur, que le travail fut un châtiment dans tous les cas. Mais il eut lui-même une idée de l'oisiveté féconde, ou du loisir, qui rend notre Ajax tout à fait orthodoxe. J'en administre la preuve. Il reposa une étrange et belle pipe qu'il fumait, qui est taillée dans une calebasse. Charlemagne en est jaloux et Fabrice la nomme Virginie, pour son aspect colonial. Adam et Ève n'ont pas encore désobéi. Que dis-je? Il ne semble pas qu'Ève soit déjà née. Adam vit seul et dans l'innocence entre les quatre fleuves. Oh, je n'ai point parlé par redondance. Les quatre fleuves étaient bien quatre. C'étaient quatre canaux issus de la même fontaine. Fison, dans le pays de l'or, d'Hélion et de l'Onyx, Géon qui coule en Éthiopie, le Tigre et l'Euphrate, que nous connaissons mieux. Adam vient d'être formé du limon de la terre. Dieu vient de répandre sur son visage un souffle de vie. Il vient d'introduire sa créature dans le délicieux jardin qu'il avait planté dès le commencement. Je cite. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme et le mit dans le paradis de délices, afin qu'il le cultivât et le gardât. Travail ingénu, gratuit, rose sans épines. Adam est capable de goûter la saveur d'un fruit. Ses yeux jouissent de la beauté d'un arbre. Il ignore l'affreux aiguillon du besoin. Avant de devenir si misérable, il était pareil à un patricien romain ou à un berger de pastorale. Amabatotia, il aimait le loisir. Et après leur crime, ce crime énigmatique qu'aucune glosse ne finira jamais d'expliquer, Adam et Ève reconnaissent qu'ils sont nus et se cachent. Les approches du destin ont quelquefois un air de familiarité. Nous voyons le Seigneur Dieu se promener dans le paradis en appelant les hommes, ces deux-là. Et c'est Adam qui répond, qui paraît. Il avoue qu'il a eu peur. Nous le voyons faiblir, nous l'entendons élever pour la première fois une plainte qui sera reprise d'âge en âge. La femme que vous m'avez donnée, et les mystères qui seront les misères du genre humain, fondent à ce moment sur le premier couple. En punissant, Dieu trace le plan d'une vie nouvelle, où perce la condition du rachat. Le sort des hommes gardera une clarté, une harmonie qui seront les reflets du jardin. Le reste, pour tout ce qui semblera absurde ou trop cruel, est la marque du châtiment, ineffaçable avant le dernier jour. Ô serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est l'épouvante des mères et des fils devant les monstres. Virgile s'en souvient encore lorsqu'il parle dans les Géorgiques des noirs serpents de Jupiter. À la femme, je vous affligerai de plusieurs maux, vous enfanterez dans la douleur, vous serez sous la puissance de votre mari et il vous dominera. Et à Adam, la terre sera maudite à cause de ce que vous avez fait, et vous n'en tirerez de quoi vous nourrir qu'avec beaucoup de travail. Elle vous produira des épines et des ronces, vous nourrirez de l'herbe de la terre. Et la punition a été de muer le passe-temps du jardin de délices en travail contraint sous peine de mort, le plaisir et le jeu en nécessité. Inversement, l'effort pénible tenant à l'imperfection de notre intelligence et à la faiblesse de notre être physique, il doit être exclu des actes divins. et les jeux, les plaisirs de l'oisiveté ne peuvent donc être criminels s'ils distinguent la création divine. Dans la Bible, la jeunesse du monde est radieusement aisée, de telle sorte que le repos du septième jour paraît une grâce conçue à notre intention. Au seuil des divins vergers, lorsqu'ils partirent, Ève n'avait pas encore un nom. Elle était le double, elle était l'ombre de l'homme. Ce fut Adam qui la nomma Ève, parce qu'il l'aimait, sans doute. Ève, la vie, parce que d'elle allaient naître tous les vivants. Bon, cela n'a plus aucun rapport avec ce que nous cherchions, mais la pensée s'y arrête volontiers. Chapitre 7. La paix universelle. Fabrice, comme un flâneur, Colbert, comme un homme méthodique, aimait les longues promenades à pied. Livingstone s'enfuyait des patrons minettes. Eux entraient dans la campagne sur le coup de 10 heures. Après un silence qui permit aux deux hommes, marchant d'un bon pas, de savourer dans l'air les dernières fraîcheurs du matin, si tout le monde, prononça Colbert, si tout le monde était semblablement et totalement paresseux, Jacques n'y a pas songé, mais vous reprocherez de tomber dans le sophisme de Paris et du flacon. Si Paris était tout petit, il tiendrait dans une bouteille. Le monde est comme il est. Mais les raisonnements de l'art par l'absurde ont du bon, ils permettent quelquefois de voir clair. Mais l'on serait alors comme dans cette ville du Tibet. Les habitants sont si lâches qu'ils laissent les débris domestiques devant leurs portes. Et quand la botte est devenue une montagne, ils y ouvrent un tunnel. Voilà, connaissez-vous le socialiste Lafargue et son droit à la paresse? Ben, il veut la paresse pour tous. Avec ses 3 heures de travail général, ses 3 heures fabuleuses, il n'est pas raisonnable comme la bruyère. Il oublie ce qu'il faut de talent à l'oisiveté utile ou simplement égayante. Et il sacrifie tout jusqu'à la sûreté de l'État. Non, il expose, mais c'était avant les ruines de la dernière guerre que l'Europe a payé l'erreur des économistes, la cupidité des industriels et les préjugés de la morale bourgeoise par les travaux forcés de la classe ouvrière et son affreuse pauvreté au milieu de l'abondance. Il est plein d'astuces. Oh, il est plein de sales chicanes de la haine, sous une apparence joviale. Il enverrait Auguste Comte limé et forgé. Et il condamne le luxe, c'est-à-dire, en fin de compte, toute la parure du monde, la vie ornée, les dentelles, les perles jusqu'aux beaux-arts, jusqu'aux collections d'Anatole France. Mais, fit Colbert, vous alliez dire mais. Mais la coutume de l'ancienne France assurait aux ouvriers plus de 80 jours de repos, les 52 dimanches, une trentaine de saints. Et monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son prône. Tandis que les règlements des corporations répartissant le travail prévenaient le cruel, le hideux chômage. Le 19e siècle n'a été ni si charitable ni si prudent. Ça vous étonne, beau libéral. Curieuse formule de ce sot si noble dans la langue pure, lorsqu'il était synonyme de généreux. L'explosion individualiste du 18e siècle, finissant, a été une faute, un malheur dont nous n'avons pas fini d'essuyer les conséquences. Juste au moment que la terre et les choses allaient devenir entre nos mains plus fertiles et maniables, quand les voitures n'allaient plus être traînées comme du temps des pharaons, quand les charrues n'allaient même plus être poussées comme par les premiers agriculteurs, immédiatement après l'âge du renne. Dans l'ancienne Europe, la disette venait quelquefois de la nature. Elle n'avait pas le blé d'Amérique. Dans l'Europe d'il y a 50 ans, la misère venait souvent des lois. La liberté n'est pas féconde, mais la règle. Tous les vrais chefs le savent, qu'ils mènent un peuple ou une équipe. L'anéantissement des corporations par le décret révolutionnaire a longtemps empêché les artisans de tirer une meilleure part de cette augmentation, de cette prolifération des richesses. Nos pères ont ainsi déterminé une injustice de surcroît, qui n'était pas inscrite dans la destinée fatale des hommes et des troubles immenses, entre l'ignoble prétention de l'anarchie, entre son égalité d'une seconde, celle du partage, entre ce retour à une rusticité entièrement dénuée, entre cet abîme et l'inclémence du XIXe siècle. L'esprit imagine avec regret un état normal dont tous les principes existaient. N'admire-t-on pas encore à Venise les vestiges de la puissante fortune des corporations? Les artisans n'auraient pas été durement bannis tout un siècle des douceurs du repos et de l'oisiveté. Leur tête ne serait pas égarée par les ressouvenirs de la rancune. Au lieu de cette guerre sociale, l'exception autrefois est la règle aujourd'hui, nous connaîtrions la paix. Qui sait? Aurions-nous vu ces vastes guerres des nations, ces guerres d'affamés? J'ai chez moi un tableau de bataille du XVIIIe siècle, dont la contemplation doit rendre modeste un homme d'à présent. Le fleuve, la colline, une batterie sur la pente, une cavalerie enrubannée qui caracole dans la vallée. Mais utopie pour utopie, j'aime mieux la mienne. Oh, savoir si Ajax sera content ou mécontent de l'eau que nous lui amenons. Ils ne causèrent point toute la matinée de Paul Lafargue et du socialisme. Il régnait sur l'Anjou un temps plein de langueur, doux et précaire, couleur de tourterelle. Chapitre 8. L'oisiveté mère de tous les biens. Nous croyons trop, disait Ajax, que tout sur la terre vient du travail. Il se peut, mais quoi? Le travail n'est-il pas son propre ennemi? Il se hait, il s'exerce pour s'abolir, et plus il fait rage, plus il désire sa propre fin. Car il n'est pas un but, mais un moyen. Il n'est pas un port, mais une route. Le port s'appelle oisiveté. J'irai jusque-là. Je dis que l'oisiveté nous sert bien mieux, que nous lui devons plus, que nous lui devons tout. Elle n'est pas seulement le port, elle est la voile, si j'ose ainsi entrechoquer les images. Représentez-vous un homme accablé de travaux. Que l'aube réveille, que les heures pressent, il n'a pas un seul moment dont la fatigue brise les muscles et il s'endort comme une bête de petit cerveau. Représentez-vous qu'une grâce du sort lui donne quelque répit. Dans cette paix nouvelle, sa chair une fois reposée, l'esprit s'éveillera. Plaisir de l'oisiveté, tel que je les ai définis, un filtre. L'esprit s'éveillera. Bonheur de l'invention. Je viens de dire l'histoire des hommes. L'inventeur de l'imprimerie songeait à sa gloire et songeait au fastidieux labeur des copistes, sinon par charité, du moins par calcul. La preuve serait encore meilleure, tirée de son égoïsme supposé. Mais dans ce cas, l'écriture est elle-même une conquête de la paresse. La remarque venait d'un Charlemagne dont le lorgnon brillait. Oui, dit Ajax, disons une conquête de l'oisiveté en vue de contenter la paresse. Les trouvailles naissent de l'oisiveté et la paresse en profite. L'encre et la plume ont diminué l'effort du style, la cire, l'effort de la pierre et du ciseau, et l'écriture, celui de la mémoire. On me croit paradoxal et je parle comme monsieur de la Palisse. L'homme a toujours eu l'idée d'un travail plaisir, d'un travail ossieux, à la place du travail fatigue et du travail douleur qui était son loyer. Il a toujours eu l'idée d'une oisiveté, chérie comme un trésor inaccessible ou perdu. De là, l'âge d'or. Ante iomem, avant Jupiter, dit la jeunesse virgilienne. Avant Jupiter, aucun agriculteur ne travaillait les champs, ni pouvait même se permettre de les signaler en les bornant pour son usage. D'elle-même, la terre fournissait tout, sans qu'il coûtât aucun effort à personne. C'est lui, dans son inexplicable volonté, qui donna un fatal venin au serpent, montra au loup sa proie, ordonna à la mer de se soulever. En les secouant, il fit pleurer aux feuilles leur miel, et il nous retira le feu, et il arrêta le cours des ruisseaux de vin, pour que leur misère peu à peu découvrit aux hommes tous les arts. Mais on vit aussitôt le tronc creusé de l'aune peser sur les fleuves. On vit les marins compter et nommer les étoiles. Un abrégé des travaux du genre humain, l'histoire des peines qu'il s'est données pour alléger ce joug insupportable du travail. L'oisiveté se confond avec la civilisation. Elle est l'objet de la civilisation, sa toison d'or. L'homme croyait avoir ses seules mains, ses ongles, ses dents. Il courait au milieu d'une embûche universelle. Et je recommence ma litanie. La première massue diminua l'effort de son bras. La première pierre lancée, l'effort de son bras et de ses jambes. La première pierre taillée, l'effort de ses mains et de sa bouche. Ainsi, de la première épée, de la première boîte, de la première enclume, de la première roue, de la première charrue. Chaque fois, un effort moindre, l'obsession écartée d'une nécessité contraignante. Le premier chien séduit courut à la place de l'homme. Le premier cheval soumis le porta. Nous devons le respect aux fatigues des laboureurs. Nous savons qu'elles sont assez grandes. Concevons toutefois la félicité des premiers paysans lorsqu'ils virent la terre travailler pour eux. Au lieu de s'essouffler encore à la poursuite des animaux rapides, les hommes regardaient enfin la terre germer. La belle Landor lava sa petite main. Elle avait une maxime à proposer en pendant à celle de Fabrice. Pensez. L'oisiveté, la halte et la couronne du travail. Les paresseux béants l'ignorent. Ils n'ont pas de loisirs, ils n'en ont pas le temps. Voyez l'insidieuse, glissa Ajax, et enchaînant. Les anciens ont si bien compris les services rendus à l'espèce par l'oisiveté, qu'ils l'ont garanti à tous ceux qu'ils nommaient des citoyens. Les seuls travaux qui leur fussent réservés ou permis étaient réputés nobles. La guerre, les champs, la nourriture et la défense de la cité. Et la science qui augmente les pouvoirs de l'homme. Et la poésie et les beaux-arts. Joie des yeux, voix de l'âme. Il faut connaître et confesser la vérité. L'esclavage ne fut pas seulement l'abus du vainqueur. Il fut un vaste système organisé par les hommes contre la dureté de leur sort commun, les meilleurs ayant mission de commander, de conduire et de supputer. C'est un fait que les inventions de l'homme se sont multipliées de plus en plus vite à mesure qu'il savait mieux changer en loisirs nouveaux les efforts anciens, attestés par les signes durables et transmissibles de la monnaie et des titres. Le travail et les services de chacun acquirent ces hypothèques sur le travail de tous. Les apparentes injustices que l'on remarque dans le maniement et la répartition de ces signes ne sont pas du même degré. Les usurpations sont criantes, mais susceptibles de réforme. Les inégalités portent la marque du destin, des talents, des chances, ou celles de l'ordonnateur. Réseau d'épreuves et de tentations qui forme sa politique. Ici j'invoquerai une petite chanson russe, l'un de ces chants qu'un peuple trouve comme pour fixer et fasciner le sort ou pour s'en consoler. La jeune Ulyana se promenait dans son jardin. Elle cueillait des fleurs d'aubépine, elle les comparait à son visage. Elle demandait à sa mère, « Dis-moi, ô ma mère, serais-je jamais comme cette aubépine ?» Marie-toi avec un seigneur. On vit bien avec un seigneur. Il ne faut pas remuer ni travailler, rien que se vêtir joliment. Refrain, zobelob, 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 zob. Bien la chance d'Ouliana découvre les deux pentes de la paresse, celle des fleurs et celle du crime et de la honte ou du péché et de la vergogne. Mais il en va ainsi de toutes nos passions, peut-être de tout ce qui est humain. L'orgueil naît de la dignité, de la fierté, et lui-même il dégénère. L'avion vole et tue. La calomnie et l'amour sont sur la même bouche. L'oisiveté, pourtant, est la récompense dont notre cœur nous renouvelle sans cesse la promesse. Elle est le terme de notre ambition. La terre hérissée des premiers âges, rendue pareille au jardin des délices. Nous nous servons avec ce grand espoir, peut-être sans nous effidier assez d'elles et de leur usage, de nos machines enlaidissantes. Cependant, il est permis d'espérer en des machines plus subtiles, plus dépouillées, qui nous enlèvent ce tohu-bohu de biel et d'engrenage, qui soient réduites, comme déjà la TSF, à quelques traces et à quelques fils énigmatiques. Et cependant aussi, comparer cet ancien laboureur, courbé et rompu, à celui-là qui est campé sur sa machine et fume en plein air, libre, distrait, paresseux. Oh, s'il est véritablement plus heureux, c'est une autre question. Nous devrions savoir garder nos anciens bonheurs, nos anciens pouvoirs, quand nous en acquérons d'autres. Le ciel lui-même, le paradis d'en haut, nous le concevons comme un immense loisir, avec des harpes. Dernier chapitre 9, épilogue et morale. La belle Landor s'est mariée. Si belle et gentille, véritablement princière, elle a épousé, avec sa maigre dot, un homme sans fortune. Une certaine paresse, une certaine inaction peuvent résulter dans les jeunes années d'une surabondance de force spirituelle où l'embarras est de choisir. Ces forces morales et poétiques, dont l'être plié suppose qu'il a beaucoup de générosité et beaucoup de courage, ainsi la belle Landor. Pour suivre son cœur, elle n'a pas même hésité. Adieu les songes, adieu loisir. Elle travaille à présent comme des milliers de ses sœurs, barbares que nous sommes. Elle enseigne. Avec un sourire encore surpris que le monde ne soit pas tout entier une idylle, elle assure que la paresse de son adolescence lui a beaucoup appris. Chez Le Dolé nous rapporte un grand nombre des plus étincelants propos de Rivarol. Il se flattait de n'être pas ingrat, et cependant il n'est pas pur de toute jalousie. Rivarol le jetait dans un enivrement. Il ne pensait d'abord qu'à Rivarol. Le charme rompu n'a pas pu se priver d'un peu griffer son dieu. Ils ont parlé de Voltaire, de Thomas, de Buffon. C'est ce que Rivarol disait de ce dernier qui nous intéresse. Il était difficile, contenté par la seule perfection. Le portrait du cheval, disait Rivarol, a du mouvement, de l'éclat, de la rapidité, du fracas. Celui du chien vaut peut-être mieux encore, mais il est trop long. Quant à l'aigle, il est manqué. Manquait aussi le pan. Qu'il fût de Buffon ou de Guénaud, l'importe, c'était une description à refaire. Guénaud était le nègre de Buffon. Elle était trop longue et pourtant incomplète. Elle manquait de cette verve intérieure qui anime tout et de cette brièveté pittoresque qui double l'éclat des images en les resserrant. J'ai dans la tête, concluait Rivarol, un pan bien autrement neuf, bien autrement magnifique, et je ne demanderai pas une heure pour mieux faire. Mais cette heure, il ne l'a jamais eue, elle s'envola toujours. Son scrupule, son entrain, sa folle confiance, ses feux d'artifice, il a tout gaspillé, jusqu'à ce qu'il fût trop tard, éternellement. Ami, prends garde aux heures. Chacune d'elles est unique. Telle est la morale de cette histoire. Moins immorale que tu ne l'attendais, peut-être.